RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, le Racing parviendra-t-il un jour à remporter cette maudite Coupe d'Europe après un troisième échec en autant de finales? La question est légitime, on ouvrira le débat dans un instant. Dans Mêlée fermée, joueur défaillant, absence de stratégie, refus de responsabilité, tout ou presque est allé à volo ce samedi alors que l'équipe francilienne avait tous les atouts dans sa manche pour décrocher enfin la timbale. Entre les poteaux, nous reviendrons également sur le premier succès de la saison du MHR, vainqueur d'Agen, avec la manière. Notre frelon du week-end s'appelle... Kobus Reinhard, il est demi de mêlée montpelliérain, il est aussi sud-africain. Julien Lombry nous en dressera le portrait. Et puis gros plan sur l'équipe de France rassemblée depuis dimanche à Marcoussis pour une longue tournée d'automne avec 6 matchs au programme, mais le droit pour chaque bleu de n'en disputer que 3. Comment Galtier compte-t-il résoudre cette équation? Wilfried Templier nous dira tout, ou presque, en fin d'émission. En revanche, les poteaux, eux, devront disputer tous les matchs et n'auront droit ni au remplacement, ni au repos. Ils n'en ont pas besoin. Salut les poteaux. Bonsoir mon cher Denis, comment ça va?
Bonsoir messieurs.
Manu Massicard, le patron de Midol, est également avec nous. Salut Manu.
Salut les amis.
Et nos deux correspondants qui sont en pleine forme, Julien Landry qui a fini de goûter et Wilfried Templier qui va attaquer l'apéro. Ça va les garçons?
Salut Christophe, salut,
salut
à tous.
Christophe, salut à tous.
Messieurs, il est donc l'heure d'entrer dans la mêlée. C'était samedi, cette défaite terrible pour le Racing.
L'action, liée, jeu.
Allez, le coup d'envoi qui va être donné à l'instant par les joueurs du Racing. On va essayer de désaxer sur le côté droit et on va essayer d'enfoncer dans l'embut et de terminer dans l'embut. Voilà qui est fait, l'essai, l'essai d'Exeter, le premier essai de la partie après 7 minutes. On est sous les poteaux du Racing, là on s'est désaxé.
Et attention, s'ils écartent sur les ailes aussi.
Et attention, ouais, l'essai, l'essai, il y est le troisième essai et la joie juste avant la mi-temps à 30 secondes de la fin de la première mi-temps, 19 à 12 pour Exeter. Ça pousse du côté du Racing, on est à 3 mètres de la ligne d'en but avec le ballon sorti. Jean-Jacques Colombe, me semble-t-il, qui est allé aplatir. Essai, l'essai du Racing. Ouais, on voit la rage là, des joueurs qui viennent tous se féliciter. Le ballon sort vite pour classer. Est-ce qu'il va y arriver? Toujours
essai.
L'essai du Racing.
Yes.
Incroyable.
Non, les Anglais ont l'air satisfaits.
Il y a une pénalité.
Hein.
Il y a une pénalité. Ah. Pénalité. C'est fini. C'est terminé.
Ben voilà, messieurs les Français.
C'est
voilà.
Terminé.
La carotte jusqu'au bout.
Défaite du Racing 92-31 à 27. Troisième finale perdue pour les Franciliens.
Voilà, défaite 31-27, défaite amère, car franchement, il y avait la place cette fois pour que le Racing décroche enfin cette Champions Cup après laquelle il court depuis trop longtemps. Oui, mais le Racing s'est pris les pieds dans le tapis de manière assez incompréhensible avec une entame de match catastrophique. Parmi les coupables désignés, même si évidemment on ne va pas jeter l'opprobre sur un seul joueur, il y a évidemment Iri Barren, le demi de mêlée francilien, vraiment pas dans son assiette. On a compris pourquoi un peu plus tard, lorsqu'il a expliqué qu'il avait fait le choix de jouer blessé. Alors, comment en arrive-t-on, messieurs, à titulariser un joueur diminué alors qu'on est en magasin? Un remplaçant du calibre de Machenot, ça semble incompréhensible. Denis, tu as connu ce genre de situation? Est-ce que toi aussi tu as joué avec une blessure qui t'a finalement déstabilisé ton équipe?
Ouais, enfin, déstabilisé mon équipe non, puisqu'on a gagné la finale, mais je jouais avec une côte cassée qui m'empêchait de courir. Moi, je me suis fait infiltrer et c'était peut-être pas raisonnable à l'époque, mais quand tu joues une finale, et là c'est une finale de Coupe d'Europe, que tu te dis, ben, peut-être que ça se reproduira jamais, quoi. C'est pour moi, c'est humain et j'en voudrais jamais au gamin. Je trouve en plus que le lendemain, il fait amende honorable, puisque ce qu'il a dit, c'est quand même qu'il a avoué qu'il aurait jamais dû jouer cette partie. Tu penses que ça peut passer? La vérité, c'est que bon, ben, voilà, t'es rattrapé par une blessure que tu t'es fait l'entraînement la veille et ça passe pas en match. Peut-être qu'il aurait dû sortir plus tôt. À un moment donné, il aurait peut-être pris la décision plus sagement de sortir plus tôt. C'est un peu ça qu'on peut lui reprocher.
Ah oui, il est sorti rapidement quand même. Effectivement.
Non, il a attendu.
Il a attendu. Il a dit laissez-moi quelques minutes supplémentaires.
Il fait
une moins mauvaise suite de première mi-temps que le début. Mais effectivement, ça n'a pas rattrapé les dégâts occasionnés
en tout début
de match. Manu, est-ce que avant le match, tu penses que Laurent Travers et Iri Barren se sont entretenus pour savoir si ça avait vraiment le coup qu'il joue, ou alors c'est le joueur et lui seul qui décide d'être sur la pelouse?
J'imagine pas que en fonction de ce match et de cet événement qui était le plus important pour le Racing depuis des années et des années, si ce n'est depuis le début de son histoire, que le joueur n'en ait pas parlé à son staff, qu'il ne se soit pas au moins confié au kiné et au médical. Pour moi, tout le monde était au courant de cette situation-là et pas simplement le demi-mêlée.
Sauf qu'il se fait ça à l'entraînement, hein. La veille, en tapant au but.
Ouais.
Donc tout le monde était au courant.
Ouais, tout le monde savait.
Et pas, après, il n'y a pas que lui.
Hein,
pas,
hein. Non, bien sûr, on va en parler des autres.
Mais bon, lui, il a une lourde responsabilité, mais toute l'équipe a failli. Hein.
Ouais, mais c'est lui qui donne le qui donne effectivement cette entente catastrophique.
Ouais, tu parles d'entente catastrophique, mais malgré tout, il y a quand même des balles de match derrière.
Ah oui.
Je veux dire,
s'il n'y a pas
de balles de match, je serais dans.
C'est ça qui est dingue.
Je suivrais ton raisonnement.
C'est ça qui est pire, Denis. C'est ça qui est pire. Tu étais au dessus, tu devais le gagner ce match. Il n'y a pas d'autre solution. Tu devais le gagner.
Oui, mais ils se sont refait la cerise aussi derrière. Ils se sont
refait autant d'erreurs, c'est terrible. Parce que bon, alors il y a effectivement Yerry Berhen, mais il y a aussi Russell qui lui aussi a manqué son entame, un joueur fabuleux qui s'est par moments régalé, mais qui fait preuve un peu de trop d'irrégularité. D'ailleurs, ce matin, Jackie Lorenzetti disait oui, mais on est conscient que c'est un garçon qui peut de temps en temps passer à côté, mais c'est pas possible. Là aussi, Wilfried, c'est pas possible de faire confiance à un garçon dont tu sais qu'il peut te planter un match, même s'il est aussi capable de te faire gagner le match. Mais bon, quand tu veux être à ce niveau-là...
Tu t'attends qu'il te fasse gagner.
Oui,
mais pas qu'il te le fasse gagner, ce match-là, cette finale. Mais là, il passe complètement au travers. Et on a l'impression que ça a été contagieux. Parce qu'on parle de cette charnière. La charnière a fait quasiment perdre le match, mais derrière, il y a des cadres qui ont failli, quoi, dans le. Mais c'est hallucinant, dans le premier quart d'heure, il y a une faute de main de Klaassen en l'air, il y a Chavancy qui envoie un ballon en touche, Yerry Berhen, il joue rapidement, après une touche, après il garde au sol, mais chacun a été de sa boulette, c'est ça, je comprends pas, parce qu'ils avaient joué deux finales avant, et justement, on disait, oui, ils ont joué deux finales, c'est peut-être leur heure, ils ont l'expérience, et ben c'était le contraire qui s'est passé. Les cadres ont failli dans cette équipe, avec la charnière en avant, mais les cadres ont planté l'équipe quand même. Et Leroux a dégueulé deux renvois alors qu'à chaque fois il venait de marquer, ils se sont tirés une balle dans le pied. C'est ça qui est dingue.
Mais moi je reviendrai sur Finn Russell, je vais pas lui tirer dessus, mais ce poste d'ouvreur qui est une exigence rare, mais tu sais qu'aujourd'hui tu peux te faire gagner un match comme te le faire perdre. Finn Russell qui avait fait un coup de génie en demi-finale puisqu'il a fait ce petit par-dessus qui avait fait gagner le Racing, faut le rappeler quand même. Et là, il a pas l'intelligence, la lucidité pour mettre ce drop sous les poteaux. Je veux dire, à un moment donné, Wilkinson a fait gagner, pas lui tout seul, mais a fait gagner 3 titres champions d'Europe à Toulon. Oui. À Toulon. Le Racing, ils ont perdu 3 titres champions.
Et un titre de champion du monde aussi à l'Angleterre. Hein,
mais c'est pas anodin ce que je dis. C'était à un moment donné, mais t'as des ouvreurs qui sont rares.
Il n'y a pas que lui, là, Denis.
Oui, mais sur un match comme ça.
Il y a toute la France du rugby qui a pensé au drop. Il y a toute la France du rugby devant sa télé. Alors c'est plus facile devant sa télé. Et tout le monde se disait, alors le drop. Et la charnière,
c'est pas vrai.
Combien de fois ? 4 fois, 5 fois, c'était possible.
Mais je vais te dire, moi j'ai joué un peu ouvreur pendant 4 ans au Racing. Quand t'es ouvreur, t'es le patron, t'as les clés du camion. C'est toi qui prends la décision. C'est pas le numéro qui a la tête dans le regroupement. L'ouvreur, il doit dire donne-moi le ballon. Il se met dans l'axe, il tape le droit.
Il y a personne qui s'est mis en position.
Mais c'est tout. T'es le patron.
Ouais, c'est pas mis, ouais.
Mais tu mettais le patron. Je suis désolé.
Denis, très clairement, si ton 10 ne se met pas en position de drop, il appartient au 9 de le commander. Le problème de cette charnière au Racing, c'est qu'il n'y en a pas eu un sur ce scénario-là qui a pensé pendant tout le match et qui s'est posé en général. Et en directeur
patron,
de jeu pour organiser.
Oui, mais c'est bâtard. Ce qui est bâtard, c'est que le problème, c'est que Machenot, il rentre pas en tant que capitaine, il rentre en cours de match.
Mais
tout ça,
est-ce que cette équipe ne manque pas aussi d'un patron sur le terrain ? Qui est le patron aujourd'hui au Racing ?
Moi, je pense que dans ces circonstances de jeu, à un moment donné, il y a un mec qui dit voir l'entraîneur sur le bord de la touche, qui doit hurler, qui doit dire taper le drop.
Alors, tiens, justement, on va l'écouter Laurent Travers évoquer cette situation. Nous sommes donc en fin de match. Les Franciliens ont un point de retard. Ils sont devant. Les poteaux d'Exeter et ils décident finalement de ne pas tenter ce drop. Les explications de Laurent Travers.
Oui, on l'annonce sur le bord, mais après, vous savez, les joueurs sont aussi, ça fait partie de la fatigue, de la maîtrise, et quand vous courez après 14 points sur l'ensemble de la partie, mais à un moment peut-être vous avez laissé ce qu'on appelle un peu les neurones entre guillemets sur la capacité à pouvoir analyser et faire ce qu'il faut. C'est toujours facile après un match de dire il fallait faire ça ou ça. Et bien sûr que nous sur le bord on est lucide et on a le recul nécessaire comme vous, mais quand vous êtes joueur, je sais comment ça se passe. C'est pas toujours le plus simple possible. Et on voit que le sport n'est pas une science exacte.
Mais justement, quand t'es joueur, c'est exactement ce qu'il dit.
Je vais aller
dans son raisonnement. Quand tu es joueur, c'est justement qu'à un moment donné, Wilkinson, finale de la Coupe du Monde, à la dernière minute des prolongations, je crois que c'est en prolongation, bien sûr. Et bien il met le drop. Il se pose pas la question de savoir si la fatigue a fait un match et des prolongations. Non, à un moment donné, ça s'appelle.
À un moment donné, s'il te plaît.
À un moment donné, il lui manque que ça, Finn Russell. Je suis désolé, c'est pas. Et après, il est capable de coups de génie. C'est les défauts de ses qualités, ce garçon. Et d'ailleurs, Jackie Lorenzetti le dit très bien justement aujourd'hui dans l'équipe. Il dit ce garçon l'a pris. On sait qu'il est fantasque, on sait qu'il a du déchet, mais on le garde comme ça. On va aller au bout de nos idées et un jour, ça me paiera. Eh bien, je suis pas d'accord parce que tu vas mourir avec tes idées. C'est là les limites peut-être.
Après, ça peut arriver au meilleur. Ça m'a rappelé les Blacks en 2007 à Cardiff quand on les bat. Ils ont une possession énorme dans les 10 dernières minutes contre l'équipe de France. Rappelez-vous, en quart de finale de Coupe du Monde. Et pareil, ça leur a été reproché de pas tenter le drop. Bon, Carter était sorti à l'époque, mais vous avez un Wilkinson à Carter. Qu'est-ce qu'ils font là? Pram, ça part.
Carter qui a
joué direct contre les perches.
Si un Carter hier,
s'il y avait un Carter, effectivement, je pense qu'il y aurait eu un drop et que le Racing.
C'est pas là on est dans l'analyse. C'est facile de refaire les matchs, évidemment.
Le dire après. Le président francilien Jackie Lorenzetti, qui dans les colonnes de Middle, évoque aujourd'hui, Manu, un élan de la France derrière le Racing. Moi, je veux pas le décevoir, Jackie, mais perso, j'ai pas ressenti ni élan ni frisson pour le Racing. D'ailleurs, vous avez même pas consacré votre une à la défaite du Racing en finale aujourd'hui. Hein. C'est dire que la France ne se passionne peut-être pas pour le Racing, Manu.
Ouais, vous savez comment ces matchs de Coupe d'Europe. Quand il y a du top 14 en face, il y a toujours priorité à l'actualité et les matchs du dimanche aujourd'hui nous portent beaucoup plus. Ce n'est pas faire injure au Racing, simplement il manquait un titre. Après que Jackie se revendique et se félicite du soutien des clubs français, c'est aussi une réalité. Les clubs français avaient besoin aujourd'hui d'une victoire française, qu'elle soit en Challenge Cup ou en Champions Cup.
S'il y avait eu une victoire, tu ne me dis pas que tu n'aurais pas consacré la une au Racing quand même aujourd'hui.
Si, évidemment.
Très bien.
Ouais, ouais. Et Christophe, on est véhément comme ça parce qu'on a mal au carafon
mais
pour
oui,
mais
bien
troisième
sûr,
finale de suite. On souhaitait tellement qu'il la remporte qu'on est dégoûté.
Trois défaites en finale pour Racing, trois défaites en finale pour Clermont. Heureusement qu'il y a eu Toulouse.
On se rend compte de la difficulté, justement. Après, il faut peut-être revoir ce qui n'a pas marché. On a entendu Jackie Lorenzetti qui dit on ne peut pas passer, il faut se revoir, on ne peut pas tourner la page comme ça. Donc il a quand même, en tant que président, marqué les esprits.
On verra sa prise de position est suivie d'actes. Défaite à oublier donc et rapidement, car dès ce week-end, c'est le derby qui attend les Franciliens face au Stade Français. Tout de suite, il est l'heure de nous intéresser au frelon du week-end. Le frelon, il est là.
RMC, entre les poteaux, lancé comme un frelon.
Voilà, trois défaites pour entamer leur saison. On ne peut pas dire que les Montpelliérains aient démarré ce top 14 comme des frelons. Mais ce week-end, ils ont enfin décroché leur premier succès, s'imposant 42-13 face à Agen, qui lui en est quand même à 5 défaites en 5 matchs. Un succès que le MHR doit aux prestations 5 étoiles de ses internationaux, les Awas, Rataz et autres boutiers, mais aussi à celle de son demi-mêlée sud-africain Cobus Reinhard, auteur, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, Julien Landry va sans doute me corriger. Salut Julien.
Salut messieurs, rebonjour.
Reinhard, auteur d'un match très abouti, garçon qui est donc arrivé dans les roues à l'intersaison et qui depuis, Julien, s'est mué en véritable serial trailer. Pas banal quand même pour un demi de mêlée de marquer autant d'essais. Hein.
Ouais, déjà 4 essais en 4 matchs de top 14 et une offrande pour Owas samedi après-midi. Jacobus, meilleur Reinhardt, est déjà conquis le public et les joueurs en à peine quelques semaines. Et pour un Sud-Africain, c'est une performance car le MHR depuis 5 ans en a vu passer des Sud-Af moyennas malgré un pédigré prometteur. 30 ans, seulement 1m75 mais affûté comme une lame, véloce, costaud et surtout rapide. Très rapide même comme le prouve son essai de 40 mètres marqué à Toulon. Du gaz à revendre donc, un vrai puncher comme Antoine Dupont, mais aussi un incroyable finisseur. Il court aussi vite que les ailiers. Il avait d'ailleurs fini certains matchs à ce poste en Angleterre, où il sort d'une saison étincelante à Northampton. 12 essais en 21 matchs et nommé parmi les 5 meilleurs joueurs du championnat. Pépé Lafond, entraîneur des Avants, loue les qualités d'intégration de Reinhardt.
Cobus, c'est pas un inconnu. C'est un joueur sud-africain, champion du monde, qui a marqué des essais en veux-tu en voilà à Northampton. Donc voilà, mais c'est quelqu'un qui est complètement épanoui dans le groupe, qui a complètement trouvé ses marques, qui est apprécié par ses partenaires, qui se donne à fond pour l'équipe. Et ses qualités de puncher font la différence, on l'a vu encore aujourd'hui. C'est une pile.
Une pile infatigable qui colle au ballon et parfaitement au projet de jeu voulu par Xavier Garbajosa. Reinhardt est suivi depuis quelques saisons à Montpellier et quand son CV a été présenté à PSA, le directeur du rugby a validé le profil à 250%. Il a commenté de nombreux matchs, connaissait parfaitement le joueur et aurait de toute façon présenté son profil si le club n'avait pas déjà entamé les négociations. Arthur Vincent, le néo-capitaine du MHR, est surpris par les facultés athlétiques du numéro 9.
C'est un fou furieux en plus. Non mais c'est... Il apporte énormément d'entrain, de bonne énergie, on l'a vu sur le terrain, il est capable de sortir des situations, on ne comprend pas, il est électrique comme joueur, donc voilà. Donc c'est un super joueur, il a fait une super prestation, il a pu finir les coups et se créer les coups tout seul, donc c'est une bonne chose, c'est top.
Énergique, toujours le même compliment. Son petit défaut, le jeu au pied, un jeu d'occupation propre, mais contrairement à beaucoup de neufs aujourd'hui, il ne bute pas et avec l'absence de André Pollard, Montpellier va devoir se trouver un buteur très fiable pour pouvoir profiter des qualités athlétiques de son neuf.
Voilà, de l'énergie à revendre, une petite taille, et tout ça alors que les Sud-Africains, ça ressemble à un certain Colby. Ils ont quand même en magasin quelques costaud, joueurs qui sortent un peu des schémas sud-africains.
Hein. De l'ordinaire, mais un vrai puncher, comme il le dit, hein, c'est redoutable, on le connaissait déjà, hein, mais c'est vrai que c'est pas un gros gabarit, mais enfin, costaud quand même. Attention, comme Colby, il est fin de 70, Colby, mais il est très très costaud.
Ouais. Le MHR qui redresse donc la tête, hein, il était temps, Xavier Garbajosa commençait à sentir un peu le vent du boulet. Julien, ils sont désormais lancés. Les Montpellierains ou c'est difficile de juger après un match face à Agen qui est une équipe sans doute l'une des plus faibles du top 14 hein.
Le problème c'est que alors ils vont être moins impactés que les Toulousains mais voilà il y a la fenêtre internationale qui s'ouvre, les Montpellierains ont perdu 5 joueurs qui sont partis en sélection, tu l'as dit, ceux qui ont porté l'équipe samedi après-midi, les Boutiers, les Ratez, les Momo Awas qu'on a retrouvé à son niveau, quelques Géorgiens, il y a encore des blessés. Donc voilà, ils ont encore un match abordable dimanche après-midi avec la venue de Brive qui doit leur permettre de basculer du bon côté du championnat. Mais voilà, cette période qui s'ouvre avec les absents, les blessés, ça pose beaucoup de soucis à Philippe Saint-André qui a quelques nœuds à la tête et puis la blessure de Pollard va quand même être très préjudiciable pour cette équipe-là. Mais voilà, cette victoire en tout cas offre une semaine de répit et évite à Moed Altrad d'appuyer sur le bouton parce que je crois qu'il n'était pas très loin quand même.
Oh là là, Garba a vraiment eu de la chance, pas de la chance, mais enfin ça tombe à point nommé pour lui quand même. Hein. Wilfried,
ils n'ont pas le même effectif, Christophe, que Toulouse aussi. Hein. C'est vrai que les doublons, ça peut faire très mal à Montpellier. Ouais. Les tauliers s'en vont comme ça derrière, c'est très difficile pour un club comme ça.
Surtout que c'est un club qui s'est beaucoup francisé, pour le coup. Il y avait 19 Français au départ samedi sur la feuille de match. Et du coup, il va faire jouer beaucoup, beaucoup de jeunes pendant cette période de doublons. On pense au petit Thomas Darmon qui est en train de d'éclore, à Iriac qui va revenir, Ngandébé. C'est des joueurs prometteurs, mais qui ne sont pas non plus forcément habitués au top 14. Contrairement aux saisons précédentes où il y avait une armada de Sud-Africains sur le banc, alors souvent moyennas. Mais là, pour le coup, voilà, il y a des jeunes Français qui vont promettre et peut-être permettre au club de grandir.
L'année dernière, la période des doublons, justement, a été bénéfique pour ça. On avait vu éclore pas mal de jeunes talents français. On espère qu'il y en aura encore d'autres durant cette longue, très longue tournée dont on va parler tout de suite dans Côté Fermé. Ce sont les dernières infos, évidemment, de la fenêtre rugby.
RMC, entre les poteaux, Côté Fermé.
Et parce qu'après la Coupe d'Europe, place donc à partir du week-end prochain à la tournée d'automne, tournée survitaminée, puisqu'en lieu et place des 3 matchs habituels, nous aurons cette année droit de voir à la télé, s'il vous plaît, 6 matchs des Bleus. Le problème, Wilfried, c'est que les joueurs n'auront pas le droit de disputer toutes les rencontres. Galtier va devoir jouer serré et faire tourner hein, dans un premier temps.
Ouais. Alors peut-être pas tout de suite, parce que soyons clairs, hein, messieurs, l'entame de cette tournée, surtout le dernier match à disputer du tournoi à destination, à disputer face à l'Irlande, hein, elle est primordiale. On peut encore gagner le tournoi, même si on va dire que l'Angleterre, qui va en Italie, hein, en cas de victoire bonifiée, est la mieux placée pour gagner. Actuellement, il y a Français et Anglais, ils ont 13 points chacun. Mais il y a un vrai enjeu sportif, et Galtier, on peut dire que Galtier va mettre sa meilleure équipe. Hein, et sa meilleure équipe, à moins que vous me contredisiez, mais c'est celle qui a disputé le tournoi, celle qui a des repères collectifs. On imagine les contours, quoi, avec des titulaires comme Baye, Willem C, Leroux, Cross, Aldrit, Olivon, Dupont, Ntamack, Vakatawa, Boutier. Il y a match entre Marchand ou Chat au talon, Bamba ou Awas en pilier droit, Ficou peut s'y glisser à l'aile, car sinon on a Ratez, Retière et Villiers qui sont novices, et Teddy Thomas qui est dans la sélection mais qui ne joue pas en club. Donc Ficou pourrait jouer à l'aile, mais voilà. Devant le peu de temps de préparation, vous imaginez, ils sont ensemble lundi et mardi, repos vidéo, un vrai entraînement mercredi, et jeudi on calme les choses. parce qu'on s'approche du match ensuite. Donc on imagine que Galtier et son staff vont s'appuyer sur les acquis du dernier tournoi et son ossature. Et après seulement, comme tu l'as dit Christophe, les Fidji, l'Écosse, l'Italie, il sera temps de voir ces fameux 60 à 80 noms que le sectionneur nous dit qu'il a sur une liste, une large revue d'effectifs à 3 ans de la Coupe du Monde.
Ouais, il va y avoir deux tournées en une finalement, mon cher Denis. La première tournée importante avec ce match et peut-être pourquoi pas la victoire dans le tournoi. Et puis ensuite, on fera jouer l'arrière-garde en quelque sorte.
Du bricolage. On a parlé expliqué à nos grandes gueules, donc oui. Moi,
bah oui, mais Denis a 3 ans de la Coupe du Monde, c'est pas très
bien
pour l'heure du monde, peut-être,
j'ai
non
bien aimé ce qu'a dit Fabien Galtier, il a dit c'est la meilleure des plus mauvaises solutions.
Ah oui, oui, je l'entends dire ça.
Ouais, ouais, c'est vrai.
Ben voilà, je suis d'accord, je partage totalement son avis, et puis après, on sait très bien qu'il y a eu ces compromis qui arrangent tout le monde, tant mieux, hein, tant mieux, puis s'ils s'entendent mieux, c'est déjà pas mal.
Oui, déjà, ils ont réussi à s'entendre, pas se mettre sur la gueule, c'est déjà pas mal. Manu, on attend beaucoup de cette équipe de France, en tout cas, de ce début de tournée pour l'équipe de France. Après, ce sera peut-être les enseignements seront moins importants dans la deuxième partie.
Oui, tu as raison sur le match de l'Irlande qui est capital pour nous pour bien finir le tournoi. Après, il faudra, si ça sourit contre l'Écosse et les Fidji et l'Italie, il faudra aller jouer la victoire vraisemblablement contre l'Angleterre de cette tournée, enfin de cette compétition chocolat. Mais il faut gagner. Cette équipe, elle a besoin de gagner, tout simplement. Après, sur les 31 ou 42. Aujourd'hui, on revient à ce qui se faisait avant, sur une gestion dite mode club avec des cadors, des tauliers et des jeunes pour faire le nombre. Fabien Galtier est confronté à ça. Franchement, vous parlez de bricolage, peut-être sur la construction et les négociations qui ont présidé à cette décision. Mais au final, moi, je peux que m'en réjouir parce que ça va donner la chance à certains jeunes. Et puis, à quoi ça servirait pour ces matchs qui sont quand même d'une importance moindre de mobiliser 42 joueurs quand les clubs sont, eux, en souffrance. Je trouve que cet accord, il est finalement équilibré.
Très bien. Il y a fort à parier donc que Romain Ntamack et Antoine Dupont, les deux titulaires à la charnière du Stade Toulousain de l'équipe de France, soient de la partie samedi prochain face au Pays de Galles. Wilfried, tu les as rencontrés d'ailleurs cette semaine.
Ben oui, monsieur, parce qu'il y a une chose qui est immuable depuis un an, c'est la charnière du 15 de France. Antoine Dupont, bientôt 24 ans, et Romain Ntamack, 21 ans. On a tellement eu de charnières différentes ces dernières années. Moi, je trouve que c'est quand même appréciable d'avoir ces deux-là installés, entre guillemets. Et puis eux aussi, ils apprécient. Écoutez Antoine Dupont.
L'ambition aussi du staff, c'était d'essayer d'avoir plus de stabilité dans l'effectif pour que les joueurs aient plus d'expérience au niveau international. Et on sait combien l'expérience est importante dans ces matchs de haut niveau. Ça ne s'achète pas. On sait que les nations qui gagnent, c'est parce que la plupart des joueurs ou des cadres majeurs, ils ont 40, 50, 60, si ce n'est 80 sélections au moment des Coupes du Monde. Et c'est vrai que ça paye énormément, justement dans les situations un peu chaudes, les fins de match qui peuvent être compliquées. La situation qu'on a connue en Écosse avec un carton jaune, un carton rouge dans la première partie de match. Voilà, toutes ces choses, surtout pour une charnière, c'est important de savoir les gérer, mais il faut pouvoir les connaître sur le terrain pour pouvoir mieux les appréhender les matchs d'après.
Et du coup, match après match, bah, ils prennent de l'épaisseur pour ceux qui les voient à chaque fois. À Toulouse, ce sont les patrons du jeu, on peut dire. Et le progrès est aussi commun aux deux joueurs, comme l'explique Romain Ntamack.
Bah en fait, c'est un peu général. Je pense que sur quoi il a progressé, ça m'a permis aussi de progresser aussi. Je pense peut-être sur la gestion des matchs, pas jouer de partout comme on a envie de faire tout le temps. Mais peut-être ouais, de gérer un peu mieux les situations, de faire un peu plus souffler notre équipe quand elle en a besoin et pas d'envoyer les ballons alors qu'on est un peu sous pression, je pense. Encore une fois, je pense sur la gestion globale de match.
Une complicité plus que naissante pour le couple.
On a une entente qui était déjà bonne, mais qui le devient de plus en plus. Des fois, on n'a pas forcément besoin de se parler. Souvent, on pense les mêmes choses. Après, on a aussi, je pense, la même philosophie de jeu. Donc, c'est plus facile de s'entendre, même sur les choix stratégiques. Je crois qu'on s'engueule quasiment jamais. On est plutôt tout le temps d'accord.
Et ces deux-là ont la victoire comme obsession. Hein. Ils ont les dents qui rayent le parquet. Alors, messieurs, ils n'ont pas beaucoup de barbe, mais le matin, devant leur glace, au-delà de leurs objectifs en club, bah, c'est bien la Coupe du Monde qu'ils ont en tête quand ils se rasent.
Tout le monde l'a dans un coin de la tête, surtout du fait qu'elle soit en France, que voilà, on a eu un 6 nations qui a été positif jusqu'à maintenant, avec une jeune génération où on a tous pris du plaisir, je pense, sur le terrain. Donc voilà, ça redonne un élan de fraîcheur et une dynamique où tout le monde a envie de faire partie de l'aventure.
Je pense qu'on se lève et quand on met un pied sur le terrain à l'entraînement, c'est pour donner le meilleur de soi-même et pour essayer d'être le meilleur. Donc si tu essayes d'être le meilleur, ça te relie un peu au titre de champion du monde.
Il reste encore du chemin, mais franchement, on va pas se plaindre du discours. Allez, que Dupont et Ntamack nous montrent la voie.
Exactement. Les deux joueurs toulousains qui doivent être évidemment sécurisés dans cette charnière de l'équipe de France. Il faut les installer, même si les résultats ne seront pas forcément tous positifs, Denis. Mais il faut les installer jusqu'à la Coupe du Monde
C'est indispensable. Ben oui, ils ont prouvé leur évolution, leur maîtrise qui est meilleure. Et puis c'est vrai, comme le dit le petit Dupont, il faut vivre les matchs sur le terrain pour apprendre, et c'est ce qui leur manque aujourd'hui, mais ils sont sur la bonne voie. Mais comme Fabien Galthié, je suis son raisonnement, et il faut laisser ces jeunes, il faut laisser les meilleurs sur le terrain. C'est pour ça que quand je parle de bricolage, j'étais pas bricolage dans le sens où on fait n'importe quoi, c'était plus d'aller jouer tout le temps avec les meilleurs.
Et ouais. T'aurais voulu les voir sur les 6 matchs, les deux.
Oui,
les deux
après, il a raison aussi, Manu, 6 matchs c'est beaucoup d'efforts, et puis il y a un risque de blessure, et c'est certain.
Alors, si le rugby international reprend vie dans l'hémisphère nord, en revanche, dans le sud, grosse incertitude après le forfait sud-africain pour le Four Nations, forfait officiellement dû à la situation sanitaire, mais qu'il y a d'autres raisons que vous dévoilez dans le middle de ce jour, Manu. Hein.
Évidemment, il y a aussi un conflit politique et l'avenir qui se joue autour des nations de la Sanzar. On sait que la Sanzar est fortement menacée. L'Argentine est en difficulté. L'Australie et la Nouvelle-Zélande vont voguer de leur côté. On peut penser que l'Afrique du Sud est aujourd'hui en discussion pour rejoindre le Nord, comme aussi le Japon, qui se retrouve isolé au Sud. On peut imaginer dans quelques années qu'une compétition rejoigne tout le monde.
Voilà, compliqué évidemment pour le rugby, comme pour le reste de la planète. Messieurs les poteaux, merci. Salut Denis.
Salut.
On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau podcast où il sera évidemment question du retour des Bleus. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.
Salut.